Nous partons à la découverte du campagnole amphibie. Alors, quel est cet animal? Nous allons le découvrir. Nous allons voir aussi ensemble comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'on, ce qu'on connaît de lui. Et nous, pour ça, nous sommes en compagnie de Ludovic Imberdis. Bonjour, Ludo.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission faune au sein du Parc national des Écrins et vous vous connaissez particulièrement bien le campagnole amphibie. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. À quoi ça ressemble?
Alors, vous dites que vous ne l'avez jamais vu. Et je commencerai par dire aussi que c'est très difficile de le voir. Et donc, nous, quand on aborde le travail sur cette espèce, donc je vais vous décrire un petit peu, on travaille plutôt sur les indices. Mais bon, parlons d'abord de cet animal. Alors, en fait, c'est un campagnole, donc je pense que les gens voient un petit peu à quoi ressemble un campagnole, et c'est plutôt un gros campagnole. Donc lui, il va pouvoir atteindre 100 grammes, donc gros, c'est quand même pas non plus énorme, et c'est vrai que pour les gens qui peuvent avoir des interventions à faire sur ces milieux, ils peuvent parfois le confondre avec un rat, parce que c'est quand même un rat, les rats sur mulot, qui sont plutôt des petits rats, donc c'est pas un animal très facile à identifier. Comme ça, quoi. Voilà, donc après, imaginez un campagnole qui soit plutôt de grande taille par rapport aux toutes petites souris que les gens sont capables de voir.
Alors, vous avez parlé d'indices. Est-ce que, par exemple, il fait des taupinières?
Non, pas du tout, en fait, parce que c'est un campagnole donc amphibie. Donc, on imaginera bien qu'il est lié au milieu humide. Donc, et son milieu de vie, c'est plutôt des petits bras de cours d'eau, de l'eau un peu calme, claire, pas forcément très profonde, plutôt pas très profonde, avec des berges qui soient très très enherbées. Ça lui offre à la fois l'abri, ça lui permet de circuler sans se faire voir, ça lui permet de nicher, de faire son nid en bordure de rivière, et puis de circuler pour aller chercher son alimentation jusqu'à une centaine, voire 200 mètres des berges. Voilà. Donc il va être en bord de prairies humides, dans les adours en proximité de rivières comme au bord de Durance. Et puis les petits canaux d'irrigation gravitaire qu'on trouve en montagne régulièrement lui conviennent aussi plutôt pas mal.
Et de quoi se nourrit-il alors?
Eh ben, c'est un végétarien, donc il va manger toutes ces plantes de bord de rivière, jusque dans les prairies humides, donc plutôt des herbacées qui lui servent à s'alimenter et qui donnent aussi la coloration relativement verte de ses crottes.
Ouais. Et donc le monde animal, c'est manger et être mangé. Son prédateur, c'est qui?
Ça va être les petits carnivores, un certain nombre d'oiseaux, les rapaces, voilà. Mais voilà, c'est un animal qui est très très discret. Donc je pense le héron aussi va pouvoir faire partie de ses prédateurs. Donc c'est pour ça que lui, son mode de vie, c'est un mode de vie très très caché. Donc même pour nous, c'est difficile de trouver des indices parce que voilà, une fois que au sortir de l'hiver, la végétation commence à pousser et qu'elle a très 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 bien poussé, lui il reste très discret, très planqué. Donc voilà, il aime vraiment l'abri et c'est ce qui lui permet de survivre. Mais voilà, il a quand même effectivement le rôle d'une proie, quoi.
Oui, il a le rôle d'une proie. Ceci dit, comme beaucoup d'animaux, il peut être aussi menacé quelquefois par les comportements humains. C'est pas son cas. Au contraire, ça peut l'être et ça ne peut pas l'être.
Voilà. Donc, généralement, quand on est sur les milieux humides, on est plutôt sur des constats assez alarmants. Donc, tout ce qui va trop artificialiser les cours d'eau, les zones de source, la fermeture des milieux aussi pour certaines zones humides. Et puis, comme on parlait des petits canaux en montagne, l'abandon d'une certaine forme d'agriculture, l'abandon de ces canaux, ça va supprimer pour lui directement des milieux de vie, quoi. Voilà. Donc, on a intérêt à avoir des milieux plutôt naturels sur les bords de cours d'eau, sur les zones de source, sur tous ces éléments-là. Et pour ce qui est vraiment anthropique, donc lié à l'homme, on peut avoir une action positive qui est le maintien de ces petits canaux qui ont tout un rôle aussi sur la biodiversité. Je pense pour les Hautes-Alpes particulièrement tout le réseau de canaux du Bas-Champsaur et du Val-Godemar, donc qui est très intéressant. Puisqu'on y retrouve cette espèce-là. Et donc, on a besoin d'entretien, mais pas forcément dans n'importe quelle condition non plus.
Alors, il y a des zones humides qui disparaissent du fait des aménagements et des constructions dues à l'homme. Est-ce que là, on prend soin de cet animal? Il y a des manières de le faire?
Si on détruit complètement son milieu, là c'est totalement impossible. Et donc là c'est vraiment, et puis c'est vraiment la tendance qu'il y a eu sur les zones humides sur les 50 dernières années qui est problématique, quoi. Après, par contre, sur les canaux, quand on cherche à maintenir en état les canaux, l'idée c'est justement de garder ces canaux. Donc il faut les entretenir, c'est obligatoire. Par contre, c'est plutôt pour prendre soin de l'animal, ça va être dans le mode d'entretien, les périodes où on fait l'entretien, qui vont faire que on va pouvoir maintenir les populations de cet animal-là avec ces canaux-là. Donc ça veut dire que quand on va faire l'entretien, il faut essayer de le faire sur des linéaires. Il va falloir éviter d'entretenir un linéaire trop long. Donc pour qu'il y ait au moment même où on fait les travaux, il y ait des zones d'abri pour l'espèce, et puis qu'on maintienne une partie du milieu, et notamment de l'abri dont on parlait tout à l'heure, pendant une certaine période. C'est-à-dire que si on met le canal, qu'on le remet entre guillemets propre, dont on a besoin pour le long terme sur une trop longue linéaire, ça va être préjudiciable. C'est-à-dire qu'il vaut mieux étaler les travaux sur un grand linéaire sur plusieurs années. On aura toujours comme ça une zone refuge pour l'espèce, et on aura en plus toujours une connexion qui va se refaire quand l'herbe va reprendre sa vie tranquillement après l'entretien des canaux, pour que les différentes populations qui seraient au-dessus et en dessous des travaux puissent se recoloniser et se rejoindre.
Alors, ceci dit, Ludovic Imberdis, concernant le campagnol amphibie, bon, vous le connaissez, mais par contre, on ne sait pas encore très bien s'il y en a beaucoup ou il y en a précisément. Vous essayez de faire des recensements à son sujet.
Oui, voilà. Donc après, le fait est que c'est très très difficile de connaître exactement une population animale, quelle qu'elle soit. Quelqu'un qui vous affiche sur une population animale de telle ou telle espèce un chiffre à l'unité près, c'est soit un scientifique très performant, soit surtout c'est quelqu'un qui manque de modestie. Parce qu'en fait, la difficulté avec les animaux, quand on veut évaluer leur population, ça va être de les compter. C'est très très difficile, comme on disait pour le campagnol, on le voit quasiment jamais. Donc il faudrait le piéger, il faudrait être capable de reconnaître les individus. Donc ça c'est compliqué. Donc ce qu'on va plutôt faire, on va mettre des protocoles ou pas en fonction des enjeux. Donc sur cette espèce-là, nous on est au niveau d'un recensement. Donc c'est-à-dire que en fonction de là où on imagine qu'il peut être à peu près être, les agents qui sont tous formés à la reconnaissance d'indices,
et les agents du parc donc,
les agents du parc, ils vont chercher ces indices-là. Donc on va pas chercher l'espèce elle-même, on va chercher les signes de sa présence. Voilà. Et par contre, on le fait pas de façon forcément exhaustive, c'est-à-dire que quand on a une carte, donc nous, ça vous pouvez voir sur le site du parc avec notamment Biodiv Écrin, vous pouvez aller voir là où on a trouvé au moins un indice de l'espèce à tel endroit.
C'est vrai que vous avez une carte avec près des cours d'eau principaux des petits points rouges, ils indiquent que vous y avez repéré des campagnols, mais ça veut pas dire qu'il y en a que là.
Alors donc ça veut dire que cet endroit-là, il y a un agent du parc qui a trouvé un indice de l'espèce. Alors donc voilà, cette carte-là, c'est la rencontre entre un agent du parc et un indice. Voilà, donc ça veut pas dire qu'ailleurs il y en ait pas, et ça veut pas dire que on n'a pas mis en place de recensement des endroits où on l'a cherché et où on ne l'a pas trouvé. Voilà. Donc ça, c'est en fonction des enjeux, mais ça veut dire que si on doit avoir des entretiens de milieu ou des travaux à ces endroits-là, on sait qu'il faudra essayer de mettre en place avec la personne qui fait l'entretien ou l'entreprise ou la commune qui met en œuvre des travaux, d'essayer de faire en sorte de minimiser l'impact. Voilà, l'idée sur toutes ces opérations-là, quand ce soit des travaux, des aménagements, c'est en règle générale jamais de dire on ne va pas faire. Mais ça va être de dire, on va faire différemment. Voilà. Et je pense que c'est vraiment l'évolution ces dernières années, c'est comment on peut aujourd'hui faire en sorte, non pas complètement de changer nos modes de vie, de ne pas faire de travaux, mais comment on peut les faire au mieux pour tenir compte de la biodiversité qu'on connaît.
Donc pour vous, Ludovic Imberdis, le campagnol amphibie, on le cerne bien, hein, c'est, vous savez où il est plus ou moins, vous savez en tout cas comment le protéger.
Oui, voilà, je pense que là on a C'est une espèce très discrète, comme on l'a déjà beaucoup dit, mais on connaît beaucoup de choses sur elle. Le fait d'avoir formé nos agents à reconnaître les indices et les avoir...
Les indices, ainsi... donc, c'est généralement des pattes, des crottes, des...
Voilà, ben ça, les indices, ça va être des crottes, des traces de passage dans la végétation, des nids. Donc, on a tout un panel de choses qui sont assez faciles à repérer, surtout si on cible la bonne période. Donc, ces recherches-là, on va les faire en fin d'hiver, au moment où la végétation dans laquelle se protège le campagnol, elle est absente. Voilà, donc on est en sortie d'hiver, l'herbe n'a pas repoussé, il n'y a plus la neige. Donc ça, c'est le moment propice pour aller chercher les indices.
Eh bien, merci, Ludovic Inverdis.
Au revoir.